I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mise à mal. Mise à mal.
La contraception.
On n'a pas été très créatif sur les titres. Hein.
Le stop sperme bébé.
Stop aux spermes sur les bébés.
Tout est spermis.
Non, on a déjà fait cette blague.
Ah bon ?
Dans le truc des éjacs, on a déjà fait cette blague.
On tourne en rond. Allez, on arrête.
Allez, hop, bam. Faisais le micro. Le
podcast est mort.
Salut Théo.
Salut Flo.
Et bonjour les applaudisseurs.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la contraception, du stop bébé.
Et on est accompagné de...
Alba.
Yeah, bonjour. Les applaudisseurs.
C'est trop une influenceuse, Alba.
Alba qui est géniale, rappelons-le.
Elle est géniale. Alors, je me disais ça tout à l'heure. Je me disais qu'on l'avait pas beaucoup dit dans cette saison. Et donc, on est peu d'argent, en fait, hein, de
ouais,
notre sponsor.
Je suis un peu déçue parce que moi, j'écoutais vos 3 heures d'épisode à chaque fois juste pour entendre mon nom prononcé.
Alors, 3 heures, calmos.
Et alors, petit fun fact sur la première saison, le fait de dire Alba est géniale nous a ramené à un total de 2 centimes d'euros. Donc, ce qui est pas négligeable.
Voilà, donc Alba est géniale et Alba revient, du coup, pour la saison 2. On est très content de te retrouver. Et donc, à la base, on voulait 2 filles... 2 hommes pour faire un peu un truc de parité sur la contraception. Puis on s'est rappelé qu'on était misogyne.
et on s'est rappelé que la parité c'était traité un syndrome et pas un problème de fond. Et qu'en
ouais,
fait,
tout à fait. Et surtout, on s'est rappelé qu'il y avait le Covid et que les gens pouvaient pas se libérer facilement.
Et surtout, personne voulait venir enregistrer avec nous à part Alba.
Ouais. Et alors, quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal Théo? Moi, je me disais...
Ouais, vas-y.
Que la contraception, dans l'imaginaire commun, les hommes n'ont rien à foutre. Mais j'ai un peu de mal de mettre ça à mal pour l'instant.
Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'on va pas avoir de difficulté à pointer un cliché du doigt, mais on va vite se rendre compte qu'il est assez fondé, ce cliché.
Et oui, et alors, spoiler, c'est que j'ai fait, alors, de mon côté, je ne sais pas toi Théo, mais j'ai volontairement pas essayé de surpréparer l'émission, parce que déjà, mise à mal.
Comme t'es habile.
Et de deux, c'est que je me dis, il valait mieux que j'arrive avec mes limites et qu'on se déconstruise un peu plus à l'antenne, que je fasse des sur-recherches qui aurait été faux, parce qu'en fait, je l'ai fait pour un podcast et pas pour la vraie vie. Donc voilà.
Ok.
Je viens avec mes limites.
Donc, je pense qu'il y a le cliché un peu évident de dire que la contraception, c'est uniquement à la charge des femmes. Et derrière, il y a un peu le penchant qui est de dire que tous les hommes n'ont rien à foutre de la contraception, ce qui n'est pas totalement vrai non plus.
Oui.
Donc voilà, on peut peut-être un peu danser entre ces deux extrêmes.
Hey,
je vous invite à faire des petits mouvements comme ça de
oui.
Pectoraux.
On ondule le corps là.
Oh, oui.
Pour que vous puissiez nous imaginer.
Vivant le lancement de la chaîne YouTube.
Ah oui. Ah, là, il loupe quelque chose. Hein. On est bien.
Prochaine étape, le twerk.
Ah. Alors Alba twerk très très bien. Je voulais juste le dire, la dernière fois, elle est venue dès chez moi et ça s'est terminé en atelier twerk devant mon miroir. Je l'ai refait seul, hein, je l'avoue. J'y arrive pas bien.
Et par où commencer? Il y a plein de choses à dire. Parce que ça peut être un épisode un peu pédagogique. Je pense qu'il y a plein de méthodes de contraception dont les gens n'ont jamais entendu parler. Mais j'ai aussi des anecdotes.
Commençons par la plus efficace. Le retrait.
Non, l'abstinence.
Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Non, mais c'était une blague. Sous le retrait, c'est vraiment pas la plus fiable.
Et bah, alors, figure-toi que ma première anecdote va être là-dessus.
On a même pas préparé, c'est fou, ça.
Mais oui, mais alors, moi, la technique du retrait. Oh, putain, je plonge dedans, mais à pieds joints, quoi.
Tu t'es même pas mouillé la nuque, hein.
Ah ouais, mais je saute dans l'assiette de sperme direct.
Oh, waouh. Je n'ai pas vu venir.
Je prends une petite gorgée devant, là.
Ah ouais, c'est ce qu'ils disent toutes.
Non, non, mais. Moi, j'éjacule du vin.
Oh, Jésus aussi, il faisait ça.
Jésus, c'est ça.
Oui, oui, non, c'est, bien sûr, c'est de l'eau que j'ai transformée en vin. L'escroc.
Mais il saignait beaucoup, quoi.
Pourquoi le mec, moi, chaque fois que je jouis, je le fais dans un verre à pied.
Mais en même temps, t'as des si beaux verres chez toi que...
T'as cru que t'allais dire, t'as des si beaux orgasmes. Ce serait dommage de pas les mettre dans des verres à pied en cristal.
Bon, allez. Vas-y,
le retrait. Oui, technique du retrait. Il faut savoir que c'est une technique, très particulière puisque elle est quand elle est bien réalisée, elle est très très efficace et on parle de plus de 90% de réussite ce qui est pas très loin de tous les autres trucs efficaces. Et quand, dans la réalité, elle est plutôt efficace à 76% parce que les gens le font pas très bien.
Alors,
est-ce que
tuto.
Tu peux nous expliquer
qu'est-ce qu'une
ce que
technique
c'est
du retrait
bien
efficace? Que, il faut savoir que moi j'ai testé. Bon, je vais vous parler de la technique du retrait dans son ensemble.
Oui.
Allez, hop, c'est parti. Technique du retrait, donc, bien entendu, se retirer avant l'orgasme. Le problème de la technique du retrait, c'est qu'il peut y avoir du spermatozoïde parce que moi, j'ai un seul spermatozoïde à chaque éjaculation.
Il sort et re-rentre très vite.
Je l'ai appelé Roger.
Et ouais. Roger le spermatozoïde. Roger, je suis un peu fatigué. Qui va t'en féconder aujourd'hui? Personne, parce qu'on va encore se retirer. Vous voulez de l'huile en puget.
C'est comme le CBD, t'as ton Roger dans de l'huile.
Ah, dans une pipette. Bon, bref.
La pipette.
Et donc, pour cette raison du liquide préséminal, c'est ce qui fait que la technique du retrait n'est pas complètement fiable. Et du coup, la vraie bonne technique du retrait, tu la fais en parallèle d'une technique de surveillance du cycle ovulatoire de la meuf, enfin de ta partenaire. Et en gros, en fait, ta technique du retrait, grosso modo, tu peux vraiment l'appliquer de façon safe que 2 semaines par mois à peu près, quoi. Grosso modo, parce que les spermatozoïdes peuvent vivre 5 jours durant, enfin, dans un utérus. Donc,
prends du sopalin aussi.
Tu prends en compte les 3 jours un peu d'ovulation et de fertilité d'une meuf. Tu mets 5 jours avant, 5 jours après. Donc, tu vois, la moitié de ton mois est, entre guillemets, pas safe. Si tu surveilles le cycle de ta partenaire pour qu'elle ovule jamais, et qu'en plus, enfin, qu'elle ovule jamais quand tu kennes, tu reprends des capotes à ce moment-là, et qu'en plus tu te retires, normalement, en théorie, y a pas de souci. Cela dit, ça m'empêche pas, moi, d'avoir des petits coups de stress à chaque fois que j'ai testé ce truc-là, et pour le cœur, c'est pas très bien. Mais j'en discutais ce matin avec ma meuf, et ce qui est intéressant, c'est que la technique du retrait, du coup, est une des rares techniques de contraception qui met la charge mentale sur les hommes. Parce que c'est à toi de te retirer, ta partenaire peut pas se retirer pour toi.
Ouais, mais en fait, s'il y a un accident, c'est quand même pas toi qui es le plus dans la merde.
Oui, mais c'est toi qui es responsable. Là, pour le coup...
Ouais, ok. Mais
c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ta meuf, enfin, ou ta partenaire, elle te fait une confiance. Enfin, elle a pas la main dessus, ni autre chose. Tu vois, c'est vraiment... et moi, c'est ça qui me fait stresser. Et du coup...
Puis il y a quand même la question de l'ovulation. Enfin, du coup, je vais enchaîner avec une anecdote. Moi, j'utilise une application pour traquer mon cycle. Et récemment, j'ai remarqué que sur mon cycle, ils indiquent plus, en fait, la période de fécondité. Et en fait, je me suis rendu compte dans les paramétrages qu'ils ont décidé de le retirer parce que trop de gens, en fait, l'utilisaient comme information, justement, pour éviter de tomber enceinte, pour éviter cette période-là, pour avoir des rapports sexuels. Et que je pense qu'ils ont dû avoir des plaintes parce que des femmes sont tombées enceintes. Et donc, du coup, le problème de l'ovulation, c'est que c'est très incertain. Même si toi, en tant que femme, tu apprends à reconnaître les signaux de ton corps qui t'indiquent que t'es en ovulation, enfin, t'as pas de signes visibles comme le sperme que c'est bien le cas, quoi. Donc, il y a toujours cette variable un peu...
Il y a des trucs naturels, il me semble, parce que du coup, moi, ma meuf, elle fait un peu les deux en parallèle. Et tu peux, enfin, il y a des fois où tu vois un décalage avec l'appli et elle se dit ah c'est maintenant, enfin, pour moi il y a des symptômes.
Oui, en fait t'as des
extérieurs.
Symptômes, t'as des signaux que ton corps t'envoie. Enfin moi, à titre personnel, je peux avoir des contractions, tu vois, de la même manière que j'ai ça pendant en fait aussi mes règles. Donc j'ai quand même des éléments clairs qui sont envoyés par mon corps, mais c'est comme tu dis des symptômes quoi. Donc en fait j'ai pas de preuve visuelle qu'il y a bien le petit ovule qui vient
oui,
de
ça
sortir
reste
quoi.
Tu peux très bien observer mais ça reste pas une enfin c'est pas une
voilà
science,
ça se trouve tu vois genre ma contraction utérine elle était provoquée par autre chose, ça se trouve mon augmentation de libido elle était provoquée par quelque chose d'autre que l'ovulation, tu vois. En fait toi il y a plein de facteurs qui sont je sais pas moi je... après c'est aussi moi, mon rapport tu vois avec cette méthode où genre oui voilà où je serais pas du tout enfin, je me ferais pas confiance non plus.
Parce qu'apparemment, ça peut se voir dans la texture des pertes, etc.
Oui, enfin, c'est vrai aussi, au niveau de la température du corps. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, que tu peux... Enfin, plein d'éléments que tu peux assembler pour avoir les données.
Tout ça pour dire que technique du retrait, super stressant.
Voilà.
Je sais pas comment moi j'en suis arrivé là. Parce que ma meuf prenait pas la pilule, que le préservatif, ça a quand même vachement de limites en termes de plaisir pour plein d'autres raisons. Mais c'est un truc qui existe et qui est pas si... comment dire, qui est pas si inefficace que ça quand c'est bien fait, mais le problème c'est que c'est très souvent mal fait, qu'il y en a qui oublient de se retirer ou qui arrivent pas, enfin
qui oublie, la bonne blague. moi si je charriais la technique du retrait, c'est parce que franchement toutes les histoires d'accidents que j'ai entendues, c'est toujours avec des gens qui font la technique du retrait. Du coup, ça, bah, j'espère ouf. Que t'es prêt à être père, quoi.
Mais moi, tu sais que tous les accidents dont j'ai entendu parler, c'est...
Implique un escabeau.
Pardon?
C'est des meufs qui sont tombées enceintes sous stérilet. C'est les seuls exemples que oui. je connais et j'en ai 5 autour de moi.
Oui, c'est des cas assez fréquents. Enfin, fréquents. Ça reste comme une minorité, tu vois, sur les femmes qui ont des stérilets. Mais oui, ça peut arriver.
Mais quand il y a un truc, ouais, c'est...
Oui, parce que derrière la technique du retrait, de toute façon... La contraception, petit lapsus, c'est une question de dialogue et je trouve que le problème c'est aujourd'hui de trouver le truc qui va satisfaire les deux parties et en fait, même si on a beaucoup de choix, au final c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, c'est la charge mentale, elle est sur la meuf, c'est contraignant d'un point de vue plaisir ou d'un point de vue symptôme, enfin... Il y a un truc à faire là-dessus.
Peut-être on peut prendre le contre-pied, commencer par les trucs. Qu'est-ce qui, en fait, si on mettait la charge mentale sur les hommes, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ou qu'est-ce qui pourrait exister très très prochainement?
Là aussi, j'ai des éléments de réponse.
Mais alors, moi aussi, par contre, est-ce que je pense qu'on a fait les mêmes recherches?
Mais moi, j'ai fait aucune recherche pour ce podcast, mais j'ai fait des recherches dans mon couple.
Oui, c'est vrai, dans la vie.
Et pour avoir écumé les solutions de contraception masculine, la seule qui me paraît viable, mais que j'ai, et c'est un sujet aussi, je l'ai pas mis en œuvre. Pour des raisons que j'ai expliquées, c'est la contraception masculine thermique. Donc, qu'est-ce que la contraception masculine thermique ?
Qu'est-ce que la contraception ? Tu sais qu'on dans le dernier épisode, on parlait d'un soutien couille. Et on y vient.
Et c'est un soutien couille. C'est-à-dire que la nature est très bien faite. Si vos petites roupettes sont à 2 cm du reste de votre corps, c'est parce qu'elles ont besoin d'un petit vent de fraîcheur. Pour bien tourner, quoi. C'est comme une machine qui surchauffe ça, et elle fonctionne plus correctement. Donc, les testiboules sont un peu en retrait du corps. Exprès pour fonctionner. Et quand elles sont à 38 degrés, qui est la température, enfin 37,5 du corps, elles ne fonctionnent plus. Enfin, elles fonctionnent toujours, mais elles ne produisent plus de spermatozoïdes au bout d'un certain temps. Donc, la contraception thermique, aussi appelée slip chauffant, ce qui n'est pas du tout stylé, consiste à mettre des dispositifs, donc soit un anneau en silicone, soit des sous-vêtements, qui vont remonter les bourses au niveau du corps, qui vont naturellement, du coup, elles vont être naturellement plus chauffées et vont arrêter la production de spermatozoïdes. Donc c'est une méthode qui est complètement naturelle, qui est assez intéressante, mais qui est dans sa mise en place très contraignante.
Mise en place.
Ok.
Du branding.
Qui est très contraignante. Alors déjà, qui est peu répandue. Enfin, on n'en entend pas beaucoup parler. Et alors, pour la mettre en place, faut d'abord faire un spermogramme.
C'est quoi?
Un spermogramme, c'est mesurer ta fertilité, en fait, tout simplement. Donc, sans la contraception. Ensuite, tu commences à mettre ton anneau, un anneau thermique. C'est un anneau en silicone qui te remonte les boules, quoi, en gros. Que tu dois porter 16 heures par jour en moyenne pour qu'on soit efficace. Enfin, c'est même pas une moyenne, c'est 16 heures par jour minimum. Donc en gros, tu l'enlèves pour dormir, quoi. Et donc une fois que tu fais 16 heures par jour et au bout de 3 mois à porter l'anneau, tu fais un deuxième spermogramme qui confirme que t'as arrêté de produire des spermatozoïdes. Donc c'est une méthode qui est très longue à mettre en place. Il me semble que par exemple une pilule au bout d'un cycle, c'est bon. Enfin,
Féminine, ouais, c'est un cycle. Un cycle, ouais. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, ce que j'avais regardé pour la pilule masculine qui était en train d'être développée et un des résultats, c'est qui est similaire, c'est qu'il faut au moins 2 ou 3 mois pour qu'elle soit effective, en fait, pour qu'il y ait genre un arrêt de la production du sperme. Donc exactement comme pour le slip chauffant.
Et moi, je trouve que la contrainte, et c'est en fait, j'en ai beaucoup parlé, et c'était vraiment le meilleur choix, et le deuxième meilleur choix, c'était la capote, quoi, qui nuit beaucoup au plaisir, en tout cas, enfin c'est personnel, mais au mien et à celui de ma partenaire. Et en fait, je l'ai jamais fait parce qu'en 16 heures par jour avec un truc autour des boules, c'est quand même pas très confortable. Et je sais, et vous aurez raison de dire que c'est plus confortable que tous les effets secondaires d'une pilule contraceptive ou d'un stérilet ou d'un implant ou machin. Toujours est-il que j'ai pas sauté le pas. Et ça en dit long sur la société dans son ensemble, le fait nous, les hommes, on n'a pas envie de prendre cet inconfort pour nous. Mais voilà, je l'ai pas fait. Donc, honte à moi, mais je me suis quand même renseigné. Et je pense que si ça m'était pas 3 mois avant de se mettre en place, j'aurais eu un peu moins de réticence à le faire. Et cela étant dit, j'ai même pas fait l'effort d'acheter un anneau pour essayer voir à quel point c'était inconfortable ou pas. S'il y en a qui l'utilisent, je serais ravi de lire vos commentaires, mais voilà.
Mais c'est vrai que tu pointes du doigt un truc qui est hyper important, c'est que les hommes sont quand même très très enfantin. Enfin, je veux pas catégoriser, mais il y a ce truc de si ça me plaît pas, je le fais pas. Tu vois, si c'est contraignant, j'en veux pas. Et parce que les femmes ont été très habituées à porter la responsabilité de la contraception, on a en plus, on voit plus la perte que le gain. Genre bon, bah en fait, le statu quo, on y gagne carrément. Donc pourquoi faire un effort? Et en plus, vraiment, t'as beaucoup d'hommes, et j'en faisais partie, qui même rechignent à la capote, tu vois, genre, c'est pas cool. Alors, je la mettais, tu vois, mais il y avait vraiment ce truc de... Alors que...
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la capote, c'est vraiment pas cool, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres moyens de contraception qui existent. La capote, le gros avantage, c'est que ça protège aussi des MST.
Oui.
Mais c'est juste ce que tu dis. Moi, j'en parlais avec ma meuf. Elle me disait, mais quand j'étais au collège, qu'on a toutes commencé à prendre la pilule en même temps. Et elle, ça lui a mis 10 ans avant qu'elle commence à se dire, mais en fait, c'est pas normal. On me l'a imposé. J'y réfléchissais pas. Et elle me disait, ça fait 15 ans que je prends des dispositifs de contraception. Et ça fait que 5 ans que j'y réfléchis vraiment. Enfin. Il y a un côté, une sorte de réflexe naturel, et il y a beaucoup de potes meufs autour de moi qui ont même des gynécos qui leur rionnaient quand elle leur parle de la technique du retrait, par exemple, et qui disent non, mais vous faites pas chier, vous prenez la pilule, et voilà, quoi.
Ouais, il y a ce truc, moi, je remarque dans mon entourage, il y a de plus en plus de meufs qui se réapproprient un peu leur contraception, et c'est un phénomène très récent. Et il y a aussi, pour revenir sur les gynécos, il y a une meuf récemment qui me disait que elle s'était fait poser un stérilet, et la gynéco l'a pas shamé, mais lui a dit bon bah voilà, on vous le met en attendant que vous vouliez un enfant, quoi. Alors que tu vois, normativement,
en cuivre ou en hormone.
Ouais. Et on reviendra sur le stérilet, mais là, juste pour rebondir sur la gynéco qui lui a dit bon bah voilà, c'est temporaire parce que vous avez la trentaine, donc bientôt va falloir penser aux enfants. Et elle était là, bah non, en fait c'est vraiment pas dans le plan, quoi.
Mais j'étais avec une meuf pendant longtemps et on avait
des mona.
On avait opté pour le stérilet au bout d'un moment, même si c'est très difficile à la pose, enfin ça fait apparemment c'est horrible. Et beaucoup de gynécos l'avaient refusé de poser des stérilets sur des nullipares, en fait.
Des
femmes qui n'ont jamais eu d'enfants.
Ouais, des nullipares. Comme tu sais, les serpents, ils sont ovipares, ils font des enfants dans des œufs. Bah, nullipare, t'as jamais eu d'enfants.
Oh, j'ai appris un mot, je savais vraiment pas.
C'est un Pokémon.
Il est tellement heureux, là, en ce moment, Florian, il a la patate.
C'est trop bien. Je peux le dire à plein de gens, en plus.
Et dis donc, espèce de nullipare.
Eh, t'es un gros, t'es gros nul, il part.
Et casse-toi.
Toi, le mec qui shame. Eh, t'es nul hypard. Eh, tu sais quoi? Eh, même pas de respect.
Regarde-moi dans les yeux, baisse les yeux.
Baisse les yeux. T'as pas d'enfant.
Le combat de coq.
Le combat de coq bloc.
Le combat de cocu.
Non,
c'est moi qui la regarde se faire baiser. Ah non, c'est pourquoi je prends une baisse.
C'est pas le sujet du jour. Hein.
Non, effectivement.
On en reviendra dessus. Si tu
mais alors, on aura un épisode sur la jalousie et la compersion parce que ça me fascine.
C'est intéressant.
Mais bref, mais je voudrais pas qu'on fasse ce genre de d'homme. On a invité une femme pour parler et on parle que entre nous. Et Alba, elle est très polie. Du coup, elle nous écoute en acquiesçant gentiment. Avec vraiment une bienveillance
complètement.
C'est vraiment très intéressant ce que vous dites.
Mais ça, tu pourrais le faire en écoutant le podcast. Elle est l'auditrice, même pas.
Moi, je suis venue pour écouter ce que vous dites, mais en live.
Et boire du vin, mais pas toute seule.
Exactement. La solitude au temps du Covid. Non, mais du coup, moi, je voulais quand même revenir en fait sur la question de la capote, parce que c'est la question qui me tue en lipine personnellement, parce que moi, c'est le moyen de contraception que j'utilise majoritairement, c'est celui avec lequel je suis le plus confortable. Et je me suis posé la question, en fait, vous, en tant qu'homme, à partir de quand il y a une forme un peu de rejet de la capote? Enfin, pour vous, c'était dès le début de votre vie sexuelle, vous avez ressenti ça?
Ouais. Moi, la première fois, du coup, mes premiers rapports sexuels étaient avec capote pendant longtemps avant qu'on l'enlève. J'avais beaucoup de panne. En fait, tu sens beaucoup moins de trucs. Tu t'es dans un truc en plastique qui te serre la verge, quoi. Donc, c'est pas du tout ouf niveau sensation, mais bon, j'avais beaucoup de pannes d'érection où tu débandes ou machin, c'est chiant, quoi. Et après, avoir Ken sans capote, c'était genre, ah oui, le sexe, c'est vraiment trop cool,
y
en fait.
Il n'y a pas de retour en arrière, quoi.
Bah si, il y en a eu beaucoup, il y en a eu avec...
Mais c'est douloureux, c'est ça.
C'est ça. Il y en a eu avec la même meuf, parce qu'en fait, elle prenait la pilule et elle avait beaucoup d'effets secondaires, et c'est moi qui lui ai dit, mais arrête, c'est trop chiant, enfin, c'est évident que c'est pas bien, et on a repris la capote. Et c'était un peu, j'ai l'impression que c'est souvent le cas, la capote, c'était la solution, genre bah il y a pas mieux en fait. Enfin, il y a pas mieux, mais c'est pas pour autant que c'est optimal, tu vois. Et niveau sensation, enfin je sais pas toi Flo, mais ça me coupe complètement. Et je sais que pour en avoir parlé avec ma meuf, elle aussi elle sent moins de trucs quand on met une capote.
Non mais du coup après t'as dit un autre truc qui moi je trouvais intéressant sur le fait que les hommes en fait ne sont pas prêts en fait à sacrifier une part de leur confort dans le rapport sexuel, tu vois.
Mais alors, pardon.
Non mais est-ce que t'es en train de me
j'ai
couper
fait
là
ouais, j'ai
oh là
fait
là. Mais par exemple tu vois tu mentionnais je sais pas tu m'as dit une amie tu vois qui avait eu un stérilet et c'est vrai que le stérilet ça peut être très douloureux à la pose. Enfin, t'as des cas de femmes qui s'évanouissent quand même pendant la pose du stérilet.
Ouais, bah,
tu peux te retrouver avec des flots de sang en continu pendant 3 mois. Enfin, tu vois, on parle quand même genre de conséquences sur le corps assez importantes. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a totalement une inégalité entre ce qu'une femme est OK de supporter pour sa contraception et l'inconfort de l'homme, quoi. Enfin... Après voilà, moi après bon, je pense que ça ressent que je suis clairement quelqu'un qui est pro capote et que c'est mon moyen de contraception, enfin le seul et l'unique que j'utilise, mais parce que je trouve que voilà, les conséquences en fait des autres contraceptions féminines sur notre corps, il est trop important en fait.
Voilà, la distinction que je faisais, c'est que dans le cas d'un stérilet, c'est les douleurs que t'as, c'est à la pose, et normalement en fait, tu peux très bien le supporter et tes futurs rapports, ils peuvent être complètement normaux. Sans gêne, enfin après.
Oui, ça dépend des femmes quand c'est. Ouais. En fait, c'est le problème de la pose du stérilet, c'est que tu sais jamais comment ton corps en fait va réagir parce qu'en fait t'as un corps étranger dans ton utérus, donc en fait ton corps peut avoir une forme de réaction de rejet et d'où bah les douleurs qui sont continues et qui s'estompent pas forcément selon les femmes quoi.
Et juste sans faire le social justice warrior, moi ce qui me fait marrer en ce moment avec tous les tests Covid, c'est que les mecs qui pleurent et d'un petit coton-tige dans le nez, quand j'ai entendu des histoires de pose de stérilet, j'étais waouh.
Mais au-delà de la pose du stérilet, juste en fait un examen gynécologique.
Oui, c'est déjà très intrusif.
Voilà.
Bien sûr.
Mais et justement, je voudrais quand même rebondir parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et en fait, je voudrais juste dire que c'est pas normal en fait d'avoir des gynécologues qui se permettent de faire des commentaires en fait sur ton choix de contraception, sur en fait ton choix de pas avoir d'enfant et qu'il faut pas avoir peur de changer de médecin traitant dans ces cas-là. C'est vraiment important de s'autoriser. Enfin, moi-même, j'ai été victime de violence, pas violence gynécologique, mais enfin vraiment de pratiques gynécologiques qui me convenaient pas, que j'ai accepté de subir pendant un certain temps. Et ça m'a tellement fait du bien d'avoir quelqu'un qui est capable de t'écouter vraiment, en fait.
Complètement. Et il y a des listes qui sont disponibles sur Internet de gynécologues bienveillants qui acceptent, par exemple, de prendre des spéculums, ça le nom?
Spéculos.
le truc qui écarte, là.
Bah, normalement, il l'utilise à chaque fois. Donc,
oui,
ça m'inquiète.
Non,
que
mais j'ai
racontes,
pas fini, mais
ouais.
qui accepte d'utiliser des dispositifs pour les enfants sur des femmes adultes parce que du coup, c'est moins intrusif.
D'accord.
Enfin. Ou qui sont pas des relous comme ça sur la question de la contraception et tout. Et je sais que ces listes existent en ligne, donc n'hésitez pas.
Et juste pour continuer sur la capote, ta question Alba de notre rapport. Moi, j'ai commencé donc mon premier rapport. Il y avait donc, la toute première fois que j'ai fait l'amour, il y avait une capote, mais on l'a enlevée quasiment tout de suite parce que moi j'étais vierge, donc j'avais rien quoi. Elle avait eu un autre mec avant, mais il s'était tout le temps protégé et puis je lui faisais totalement confiance. Et je crois que dès mon deuxième rapport, j'étais à nu.
Mise à nu.
Mais j'étais à nu et je suis resté avec cette meuf-là pendant 1 an et demi. Ma deuxième meuf, c'était pareil parce qu'on s'est fait tester tout de suite. Après, ma troisième meuf, c'était pareil. Enfin, et du coup, vu que je restais 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans avec les meufs, la capote pour moi, c'était lié à des accidents entre, c'était des coups d'un soir un peu bof. Mmh. Pour moi, ça a été très connoté. Capote égale coup pourri déjà parce qu'émotionnellement je m'investissais pas, je faisais pas confiance à la meuf et en plus les sensations sont pas très agréables.
Mais alors du coup vous utilisiez quoi, la méthode du retrait?
Non, elle prenait la pilule à l'époque.
Ah, d'accord.
Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans, non, c'était il y a vraiment longtemps, c'était il y a 15 ans, donc il y avait aucune discussion autour du fait qu'elle prenait toute la pilule.
Et
quoi.
Chez ces partenaires là, t'as jamais remarqué des effets secondaires relous de tes partenaires qui prenaient de la pilule? Moi je sais que la meuf avec qui je suis resté assez longtemps,
Desmona.
ça c'est un peu pesant.
Non.
On peut l'appeler Marguerite si tu veux.
On peut changer le nom de
Marguerite.
Mise Desmona. Bref, il y avait des problèmes de libido, de sécheresse, de maux de tête, de migraines horribles et tout. Et c'est, il me semble que c'est moi qui ai mis le doigt sur le fait. Mais attends, mais tu penses pas que ça plus ça plus ça plus ça, ça a tout la même cause qui serait la pilule? Et genre, ah ouais, peut-être. Et je dis, non, mais moi, je veux pas te voir comme ça. Vas-y, on teste, on arrête la pilule, on reprend les capotes, c'est pas grave, mais on voit. Et ça s'était vraiment amélioré.
Tu soulèves un très très bon point. Juste avant, je boucle sur la capote. Ce que j'ai appris récemment, c'est que il faut que je m'habitue à prendre du plaisir. En fait, oui, c'est une contrainte. Oui, ça réduit le plaisir, mais il faut que je m'y habitue. Pour ça, il y a deux choses que j'expérimente en ce moment. C'est que les capotes de grande surface, c'est comme la piquette quand tu veux prendre du vin, quoi. Enfin, genre, ça reste une grande surface, c'est très normalisé. Et leur but, c'est de faire de la masse. Enfin, tu vois, qualité, c'est pas vraiment le mot qui colle à ce genre de préservatif. Donc déjà, je vais aller voir plus en ligne des trucs qui existent, comme Passage du Désir, ce genre de trucs, ou des petits magasins. Enfin voilà, je me rappelle quand j'étais allé à Amsterdam, j'étais allé à la Condomerie. Et c'était génial, parce qu'en fait, il y a plein de trucs, tu sais même pas. Voilà, et il faut savoir qu'il faut trouver la bonne capote pour... bah tes sensations, ta verge.
Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis, enfin parce que je trouve que là il y a aussi la charge du mec qui prend en charge son plaisir et sa contraception, voilà, parce qu'il cool. y avait aussi le cas des femmes qui apportent la capote au mec, tu vois,
en là, bois.
Non mais moi j'aime bien les deux sens, ça me rassure toujours.
Oui, non mais c'est toujours important qu'une femme ait des capotes sur elle, mais en fait au bout d'un moment genre c'est le mec qui doit être en mesure de savoir ce qui lui convient en fait en termes de produit.
Ça c'est important de pas y aller comme des gros bourrins. Et le deuxième c'est qu'il faut aussi s'habituer au port de la capote, et un truc que j'avais jamais fait et j'ai 30 ans. Parce que j'étais toujours dans le rejet de genre la capote c'est temporaire, c'est pour, tu vois, genre c'est ça va pas être ma norme. Et maintenant je me dis bah en fait c'est peut-être plus à moi d'être responsable vis-à-vis de ça. Et donc, du coup, il faut que j'accepte que ça peut être plus récurrent ou plus un usage plus long que ce que j'en avais avant. Et donc, du coup, s'habituer à porter une capote, se masturber avec une capote, découvrir différents modèles seul aussi, pour pas, au moment où tu le fais, d'être complètement surpris de genre, ouh, je connais pas cette sensation. Mmh. Et en plus, t'es avec une meuf, peut-être que tu découvres pour la première fois, peut-être... En fait, c'est pas le moment, quoi, de faire ça. Donc, voilà, c'est les deux choses que je fais.
Ce qui est intéressant, c'est que, quelque part, moi, dans mon malheur de mettre des capotes, et je déteste ça, j'ai trouvé quand même, ça a mis le doigt sur un truc en disant, mais putain, en fait, le coït, enfin, au sens vraiment pénétration, c'est pas forcément le truc le plus bandant, littéralement, qui puisse m'arriver. Et ça a été aussi une voie pour moi détournée de désacraliser la pénétration et de profiter d'autres choses.
Mais c'est vrai que ça apprend à temporiser le truc de juste, bah, il y a un script, on va faire ça, puis après, je vais bien te rentrer dedans. Facilement.
Et c'est marrant, tu disais tout à l'heure qu'il faut s'habituer à la sensation d'une capote. Moi, la première fois que j'ai eu une boîte de capote, j'étais encore vierge. C'était ma mère qui m'en avait acheté, la gêne ultime.
C'est mignon.
Mais en même temps, super parenting, tu vois. Genre vraiment, je me revois. Elle était revenue des courses en disant... Et franchement, elle en a pas fait des caisses. Elle a posé le paquet, elle a dit, tiens, si un jour tu en as besoin, t'en auras.
Voilà.
Et cool, tu vois, franchement.
Des capotes, du champagne et
des Kinder Bueno.
Faut mettre le Kinder dans la capote.
Maman, j'ai 8 ans.
Mange tes Kinder, enfile ta capote.
Quand on aura besoin, demain, tu...
Ils seront bien payés, mais...
Non, mais tout ça pour dire que même si... Franchement, je pense que dans l'approche pédagogique, ça a été très bien fait. C'était quand même le maximum de la gênance. C'est ça qui est fou. Bref, passons. Et du coup, même les premières fois où j'ai enfilé des capotes, c'était juste pour me branler, pour voir comment ça faisait, en fait.
Ah, tu l'avais fait?
Ouais.
Bravo. C'est bien,
pour,
ça.
Pour voir. Bah oui, pour
découvrir. T'avais pas fait ça, Florian?
Bah bien sûr que non, moi, ça n'existait pas
dans
mon
monde. Je shame publiquement.
Non mais en fait, j'avais juste peur, je me disais, mais putain, si un jour je baise et que je sais pas enfiler une capote ou que je sais pas ce que ça fait, mais je vais pas baiser.
J'avais arrivé.
Et quand t'as 16 ans, la plus grande angoisse de ta vie, c'est d'être à deux doigts de baiser et de pas baiser. Je veux dire.
Mais jamais t'as eu breaking news. Il a pas su comment mettre une capote, elle est partie en le baffant.
La honte.
Bouh.
Surtout que je pense que beaucoup de filles, enfin en tout cas moi je l'ai fait, je sais que d'autres amis à moi l'ont fait, on s'est entraîné sur des bananes, quoi.
Ah ouais?
Bah oui, on avait des capotes quand on était aussi adolescente et on s'amusait.
Pourquoi
à...
pas sur des bites?
Bah, parce qu'on en avait.
Vous pourriez me prêter votre bite, c'est pour une démo.
Pardon, excuse-moi.
Je suis désolé. Ah ouais, c'est fou.
Je savais pas que... Enfin, j'ai jamais entendu.
Notre grand jeu, c'était de récolter le plus de capotes possible lors de la Gay Pride, de les remplir avec de l'eau savonneuse, bien tout secoué. Enfin, on faisait des bombes à l'eau.
Oui, ça, oui.
Oui, mais c'est-à-dire que, voilà, on avait depuis qu'on était assez jeunes, on avait des capotes en notre possession et on s'est tous entraînés avec...
Tu faisais des colliers, tu sais, comme des tribus guerrières, genre t'as des capotes marrant, usagées autour du cou.
Les Amazones.
C'est ça.
Il y a une sorte de mythe intergénérationnel de les jeunes se protègent pas, ont pas le réflexe de mettre une capote, mais c'est tellement un truc qui fascine quand t'es au collège, l'objet mystique de la
sûr,
capote.
Bien sûr, parce que ça représente le sexe,
mais
quoi.
Mais c'est ça, et je pense qu'en fait, aujourd'hui, tous les enfants, enfin...
À partir de 5 ans.
Tous les ados en âge de procréer parce qu'ils ont atteint la majorité sexuelle, pardon, ont ce réflexe d'avoir des capotes sous la main, tu vois. Moi, je...
Ouais.
Pardon, j'avais une petite question du coup, parce qu'on parle beaucoup de la capote masculine, mais est-ce que vous avez déjà essayé une capote féminine? Et je me tourne vers toi, Alba.
Alors, j'ai déjà joué avec toute seule dans ma chambre, parce que j'avais réussi à en récupérer...
Pour faire des marionnettes.
À l'infirmerie de mon collège ou de
mon lycée.
Contre capote. Non, mais c'est ça, genre, je trouvais que c'était très drôle, mais d'un point de vue pratique, j'ai jamais vu à quel moment j'allais pouvoir l'utiliser, quoi. T'as l'impression de te mettre un sac en plastique dans le vagin.
Tu l'as testé, enfin, de le mettre.
Parce que jouer est égal.
Je pense pas. Je pense que j'ai juste regardé le mode d'emploi, j'ai touché la chose et j'étais là, genre, no way.
Parce que j'y avais pas pensé au moment où tu m'as posé la question, mais tu vois, quand tu me demandais à quel point ça gênait dans les rapports, bah les préservatifs féminins, finalement, c'est la même chose. C'est que t'as, entre toi et ton partenaire,
alors,
t'as...
Alors, je ne l'ai jamais utilisé, mais en fait, de ce que je voyais de la chose, c'est que j'ai l'impression que ça a rajouté beaucoup de layers. Désolée, je suis bilingue.
De couches.
De couches, merci. Et donc, du coup, là, je trouvais que ça faisait un peu tampon entre la paroi du vagin et le sexe de l'homme. Mais tu vois, par exemple, pour moi, là où j'ai du mal à comprendre pourquoi certaines femmes, genre, ressentent moins avec une capote, c'est qu'en fait, la capote, elle est sur le sexe de l'homme. Enfin, il n'y a pas, genre, de matière supplémentaire. Enfin, en fait, je vois pas...
Parce que c'est la sensation du latex.
Non, oui, mais enfin, tu vois, genre, si tu te masturbes avec un god en plastique, je vois pas en quoi...
Mais j'achète tous mes godes en chair, moi.
Excusez-moi. En cuir naturel,
ah,
d'homme.
C'est pas vegan. Ah, non, c'est tellement pas vegan.
C'est vraiment pas vegan. C'est très cannibale, même.
Mais non, mais parce que tu vois, l'argument de la layers, peu importe si c'est un préservatif féminin ou masculin, c'est la même épaisseur.
Moi, je crois qu'ils sont plus épais, les préservatifs.
Ah bah bravo, encore
honnêtement,
une taxe
je pouvais
rose.
Pas, genre, plus en parler parce que ces souvenirs remontent sûrement de mes 14 ans et j'en ai 27 maintenant, donc c'est un peu ancien, quoi.
Mais moi, j'avais entendu cette histoire de capote féminine, mais en plus, ça demande beaucoup de préparation.
Oui, en fait, c'est ça, t'es censé. En fait, c'est ça. C'est moi, l'explication que j'avais lue dans mon mode d'emploi, c'est que t'étais censé te le mettre avant ton rapport en prévision d'un rapport sexuel. Et j'étais là, genre, mais c'est trop contraignant, quoi.
Mais moi, c'est cette contrainte que je trouve qui est aussi très intéressante parce que le moment capote, ça redescend un petit peu l'excitation en général.
Mais non, il y a plein de moyens fun de la poser à la capote.
Et bah, ça, moi, j'ai jamais connu. C'est un mythe. J'ai jamais vu une meuf qui voulait
mettre un film adolescent que j'avais vu quand j'étais adolescente. Je crois que c'était genre les films ados, allemands. Non, je crois que c'était, mais c'était sur
American Pie!
Mais c'était, voilà, c'était un peu l'esprit American Pie.
Deutschland Tarte!
C'était un peu la façon que je pense quand on est ado de découvrir la sexualité à travers, je sais pas, des films qui sont pas forcément pornographiques. Et du coup, c'était tous les teen movies de l'époque et je regardais ça avec mes copines et il y avait une scène où justement une bande de copines s'amusait à mettre le préservatif avec leur bouche sur une banane, tu vois, pour pouvoir... Oui.
Mais si je peux juste, c'est
oui.
Déconseillé.
Tu n'as pas une banane entre les jambes, c'est ça que tu veux.
Sinon, j'ai très envie de faire un smoothie.
Je tiens juste à dire que c'est une technique qui n'est pas, enfin, il précise dans le mode d'emploi des capotes qu'il faut pas mettre avec la bouche parce que
oui,
tu peux
déchirer. Oui, parce que les dents, oui, mais en fait, justement, t'apprends à la pincer avec les lèvres et la langue. Enfin, je vais pas faire une démonstration. Enfin, je pense que, en effet, le moment de la capote, il peut être ressenti comme un moment d'interruption, en fait, dans un instant très érotique et sensuel avec l'autre. Pourquoi tu rigoles?
Parce que sa chaise grince quand il boit et du coup, tout le montage, je vais entendre quand il boit, du coup.
Mais je pense que la pose capote, elle peut très bien être insérée dans tous les sens du terme. Enfin, dans le mood, en fait,
mais
que tu vis
moi,
avec l'autre.
J'ai jamais rencontré une partenaire comme ça, déjà qui voulait mettre la capote
ah
à
bon
ma place.
Attends, t'as toujours mis ta propre capote?
Toujours.
Mais
ou alors je demandais.
Été exploité là en fait.
Non, merci.
Les rares fois où j'ai pas mis mes capotes, je demandais à Flo de le faire pour moi. Tu vois.
L'assistant.
Il était
salut
sous
Théo.
Lit.
Salut Flo.
Non mais alors moi on me l'a déjà mis, mais enfin en fait en général les meufs qui te la mettent.
sacrée meuf qui te la mette.
Là je parle toujours de banane. Non mais les meufs qui te la mettent en général c'est moi j'aime bien parce que ça montre qu'elles se sont aussi appropriées le moment. Il y a des meufs qui, pendant que soit tu la mets, soit... Bon, quand elle te la met, c'est plus sexuel, plus sympa parce qu'elle te touche et tout. Mais quand toi, tu te la mets, arrêtez. J'ai vu vos visages. Il y a aussi un moment de rester dans le mood. Tu vois, une fille qui peut se caresser ou qui continue à caresser ton corps.
Mais oui.
Et vraiment, ça te déconnecte. Elle fait le public.
Non, mais parce que moi, je hochais la tête, mais c'est vrai que c'est pas podcastique.
J'essaie de montrer nos émotions.
Non, mais c'est vrai que c'est... Je le vois moins aujourd'hui comme une interruption, mais aussi parce que j'ai appris à plus m'approprier. Avant, c'était vraiment, je le voyais comme un moment pause gêne. Et il y a aussi le truc de, oser assumer que ça peut briser un truc, de pas faire semblant de genre je suis toujours pareil. Si à un moment tu sens que ça te fait un peu débander ou quoi, juste de dire bon bah c'est, ouais c'est pas cool, ça m'a, où on en était, et tu reprends. T'es pas, en fait il y a le truc quand tu mets la capote de croire vite faut que je rentre dedans tout de suite.
10 secondes avant la débandade, 10 secondes avant qu'elle explose.
Je pense que c'est vrai qu'il faut un peu compter sur la gentillesse de sa partenaire, ou enfin, en plus il y a plein de moments où t'arrives pas à bien mettre la capote, tu as mis dans le mauvais sens parce que t'es forcément un peu dans le noir, t'as pas bien vu dans quel sens ça se déroulait, donc du coup enfin il y a plein de petits incidents qui peuvent arriver à ce moment qui en effet peuvent casser un peu le rythme. Voilà, mais je pense qu'il faut aussi l'accepter et pas en faire 3 tonnes, et ça t'empêche pas pour autant de rentrer dans le mood et pouvoir profiter ensuite voilà, de cette étape.
Tu parlais tout à l'heure de la contrainte de le mettre avant un rapport dans le cadre d'un préservatif féminin. Mmh. Et moi, justement, je trouve que alors c'est pas tant une contrainte que ça permet d'esquiver ce moment de pause.
Excuse-moi, t'as quand même genre un morceau de plastique qui sort de ton vagin pendant plusieurs heures.
Ah, ça sort, mais moi je sais pas si ça sort.
Si. En fait, c'est t'as l'embout en fait qui est à dehors, l'extérieur quoi.
Tu baisses la culotte de la fille et là tu vois du plastique qui sort de sa chatte.
C'est exactement ça.
Sauvons les bébés dauphins.
Genre, mais t'es une tortue ou quoi? T'as une paille, avec paille dans la chatte.
Je serais curieuse de savoir si parmi les applaudisseurs, il y a des femmes qui l'ont déjà utilisé et si elles ont envie de témoigner de cette utilisation publiquement sur votre compte Instagram.
Il y a aussi un truc que j'avais découvert, c'est des préservatifs à Cuny. Et c'est une espèce de film étirable.
Tu parles de la gaine linguale?
Ça s'appelle gaine linguale,
je crois que c'est ça.
Buccal, ça a l'air de faire si
comment
mal.
Donner envie aux gens de l'utiliser quoi.
Et il faut savoir que faire un cuni, c'est tout aussi risqué d'un point de vue MST que, et en fait normalement on doit avoir une gaine et c'est ignoble. Je vous invite à regarder sur Google, mais c'est dégueulasse. Tu tends un truc plastique et tu lèches un clito à travers.
Mais non, mais vraiment, c'est plus. Mais je croyais que c'est parce qu'il fallait que t'aies pas d'aft ou
alors,
de blessure.
Je crois qu'il y a certaines MST qui se transmettent pas par sexe oral, mais et en fait dire j'ai pas d'aft. Tu sais jamais si t'as une micro-plaie, tu vois, que tu peux ne pas sentir.
Tu sais jamais, Florian.
Et dire j'ai pas d'âme.
Ça, c'est possible. Alors, tu sais jamais aussi.
Ça, on le sait que tu as pas d'âme.
J'ai pas d'âme, hein, je peux te faire un cuni.
Oh, mais non!
Un truc démoniaque.
Belzébuth! Belzébuth!
Belzébuth!
Oh,
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 oh là là!
Oh, ah!
Allez, on s'enfile.
Mephistophalus.
Oh! C'est pour quoi? Démona.
Marguerite, on a dit à partir de maintenant. Okay.
Là où je voulais en revenir, c'est que désolé Théo, du coup je voulais terminer sur la capote parce que c'est important pour que les gens aient l'impression un temps soit peu qu'on soit structuré de clore des sujets. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la capote. De ce que t'avais commencé à aborder un sujet Théo qui était hyper intéressant, des conséquences de prendre la pilule et surtout de, tu m'as demandé est-ce que ça te faisait, enfin est-ce que tu portais pas la responsabilité de tes meufs de l'époque quand moi je portais pas la capote qui prenaient la pilule. Et pour être tout à fait honnête, de un, j'en avais rien à foutre, mais vraiment. Et de deux, ça se voyait pas. Et de trois, enfin, moi, je pouvais pas le voir pour elle. Et de trois, elle l'avait peut-être même pas conscientisé, ou elles avaient conscientisé du fait que c'était pas important et qu'il fallait pas qu'elles en parlent, qu'il y avait pas de communication sur le sujet, je pouvais même pas me sentir mal. Et ça me faisait jamais sortir du fait que je m'en foutais, quoi.
J'avais envie de rebondir justement sur cette question, parce que pour moi, en fait, c'est lié à l'habitude qu'ont les jeunes adolescentes à prendre assez tôt, en fait, la pilule, en tout cas au début de leur vie sexuelle, qui est, je pense, je sais pas, c'est quoi les statistiques en France? 16, 17 ans pour les femmes, peut-être?
Alors on a très bien préparé.
Je les suis il y a pas longtemps. Je crois que c'est 17 pour les meufs et
18 pour les mecs. Je crois
ouais.
Que
ou alors, en tout cas il y a un an de différence.
Voilà. Mais en fait c'est vrai que moi je peux faire ce constat où il y a un peu un automatisme en fait à l'adolescence où tu commences ta vie sexuelle et souvent t'as en fait t'as un partenaire fixe, donc en fait tout de suite tu vas t'orienter vers la pilule. Et c'est vrai que bah quand t'es jeune en tant que femme, tu viens tout juste d'avoir tes règles depuis quelques années, t'es pas forcément encore à l'aise avec tout ton cycle, tous les fameux signaux que ton corps t'envoie tout le long du cycle. Et en fait, bim, bam, boum, tout de suite, on te met sous pilule qui, en fait, efface totalement tous ces signaux-là. À aucun moment, en fait, on t'apprend que ça serait intéressant de te connecter un peu plus à ton corps. Et justement, ce dont tu parlais de la libido qui va forcément évoluer tout au long du cycle, tout au long de l'année. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a un peu une habitude de plaquer la pilule tout de suite au début de la sexualité des jeunes filles, sans trop de réflexion. D'un point de vue médical, je peux le comprendre parce que je pense que ça permet aussi de baisser le nombre de grossesses involontaires, indésirées à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un automatisme qui laisse même pas le choix ou la discussion avec son partenaire. Et récemment, j'étais amenée en fait à parler avec une jeune fille de 15 ans de mon entourage et j'ai vraiment ressenti le côté genre rite initiatique de la pilule pour les jeunes filles, quoi. Enfin, tu vois, je pense que il y a les règles qui arrivent, puis après, vraiment, la pilule, c'est vraiment genre, tu fais partie du monde des femmes, quoi.
Il me semblait qu'il y avait une sorte de, d'achievement de la meuf qui met, genre, je prends la pilule,
j'ai une sexualité, je suis une adulte.
Et je me revois, genre au lycée, voir des meufs en secret prendre un peu une pilule, et c'était un peu en mode, je me cache, mais en même temps, je suis une grande fille.
Voilà.
Tu vois.
Et puis, enfin, tu vois, genre, entre copines, je me souviens, on se pose la question, alors toi, tu prends quoi comme pilule? Enfin, de la même manière qu'on pourrait, je sais pas, se poser comme question, c'est quoi?
Tu prends quoi comme capote?
Oui, enfin, voilà, mais il y avait un côté un peu, genre, vraiment d'effet de groupe, tu vois, t'appartiens à un groupe et je trouve que tu vois genre que la pilule elle est vraiment insérée dans ce code social là à l'adolescence et ce dont tu parlais en fait des conséquences de la pilule sur le corps mais aussi de l'arrêt de la pilule sur le corps en fait c'est un truc que toutes les femmes découvrent j'ai l'impression en fait arrivées à la vingtaine et je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure Florian où en gros il y a un peu une forme de révolution actuelle où les femmes elles sont là genre en mode fuck the pilule quoi
ouais.
Et aussi parce qu'en fait voilà tu apprends un peu plus sur ton corps et que tu te rends compte à quel point ça a un impact qui est pas non plus insignifiant quoi sur ton quotidien. Et c'est vrai que enfin moi j'ai l'impression que même quand t'es en couple depuis longtemps et que tu fais confiance à ton partenaire au final t'es quand même très seule en fait dans cette charge de la contraception. Enfin moi j'ai jamais été dans une relation où mon partenaire enfin voilà, avait envie de me dire « Ah, est-ce que t'as pris la pilule ?» ou s'en soucier vraiment, quoi. Il y avait vraiment, c'est genre ta responsabilité et moi, j'ai rien à faire, quoi. Alors, je m'en lave les mains.
Le côté, en fait, checker « Est-ce que t'as pris ta pilule ?» bah très vite, en fait, tu peux passer pour un connard un peu genre...
Oui, un peu enfantillisant, quoi.
Mais c'est ça.
À ma vie, je pense qu'après, c'est aussi un accord à prendre avec l'autre. Mais en fait, je m'étais fait cette réflexion aussi par rapport, par exemple, à la pilule masculine qui est en train d'être développée. Bah, en fait, du fait que déjà, la conséquence en fait d'une grossesse indésirée, bah, ça reste quand même la femme qui le porte, hein, pilule masculine ou non. Et que moi, en fait, je pourrais pas faire confiance un homme vis-à-vis de la pilule et que enfin voilà si j'avais un partenaire de longue durée genre forcément je m'assurais qu'il prenne sa pilule tous les jours parce que j'en porterais voilà les conséquences physiques et mais d'un autre côté voilà moi j'étais avec des partenaires qui comme moi ne voulaient pas avoir d'enfants qui étaient aussi assez parano sur les grossesses indésirées et pour autant malgré cette peur là aucun moment il me posait la question de si je prenais bien la pilule voilà tous les jours quoi.
Mais c'est marrant c'est toutes les femmes de mon entourage à qui j'ai discuté de la pilule masculine m'ont toutes dit moi j'aimerais qu'il le porte déjà pour partager la charge mentale mais surtout pour faire un double check genre une double sécurité mais je n'abandonnerai pas
en plus de la pilule féminine du coup
en plus de leur contraception habituelle.
D'accord.
Elle dit j'abandonnerai pas ma contraception dans mon corps ce que tu viens de dire en gros du fait que je contrôle quoi. Donc c'est intéressant.
Là-dessus, moi, j'aimerais bien juste évoquer un truc. C'est qu'on est dans une époque où on critique à fond cette génération précédente de médecins qui a développé la pilule et qui est partie du constat de dire c'est les femmes qui sont enceintes et qui portent le bébé, c'est à elles de s'en occuper. Et il y a beaucoup de gens qui décrivent cette façon de penser. Et je suis désolé, mais si j'avais été à la place de ces médecins, je peux pas garantir que j'aurais réfléchi différemment, en fait. Et ça me gêne que le débat se place sur la pseudo responsabilité de cette génération et de misogynie aussi, alors qu'en fait, le débat, il est ailleurs. C'est juste comment on fait pour améliorer. Ok, cette pilule, elle existe, tu vois.
Je pense pas que le débat, il soit vraiment sur qui a développé la pilule. En fait, je pense que la problématique qui est un peu en train de ressortir en ce moment, c'est le fait que il n'y a pas eu vraiment de lumière sur tous les effets indésirables de la pilule. Enfin, en fait, tu le sais quand tu prends la pilule. Enfin, il suffit de regarder le mode d'emploi de la pilule. Enfin, avec tous les effets indésirables, t'as l'impression qu'il faut que tu réserves ta place dans un cimetière au plus tôt parce que t'as l'impression que tu vas mourir, quoi, avec tout ce qui est décrit dedans. Mais d'un autre côté, comme tout le monde le prend, bon, bah, t'es rassurée. Mais sauf que dans les faits, tu as de plus en plus de femmes qui, une fois qu'elles ont pris la pilule pendant des années, qui veulent l'arrêter, ont plein de problèmes de santé. Enfin, ou même juste des problèmes en fait tu vois d'acné
qui... une fois qu'elle l'arrête
parce qu'en fait du coup ton corps en fait il doit apprendre à recréer des taux d'hormones lui-même quoi sans avoir en gros à métaboliser des hormones que t'ingères et en gros ça crée tout un tas de désordres à l'intérieur de ton corps. Et en fait, il y a la critique de la pilule, elle est sur les effets indésirables pendant que tu la prends, mais aussi, en fait, les conséquences sur le corps une fois que tu as arrêté de la prendre, quoi.
Ce qui est inadmissible, c'est que les effets secondaires étaient les mêmes pour les hommes, et pour les hommes, ça a mis un frein au développement d'une pilule. J'ai pas de...
Pareil, j'ai pas creusé la question, mais j'avais entendu ça, en effet.
Mais alors, c'est une question naïve que je voulais poser, parce que moi, j'ai entendu parler il y a quelques années du développement de la pilule masculine, je n'ai pas entendu de nouvelles depuis. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis pas assez renseigné?
Je suis allée lire dessus hier, et...
Merci de préparer l'émission.
Il y a pas de souci quand vous voulez. Et en fait, justement, comme toi, Théo, j'avais entendu parler en fait de ces effets indésirables qui avaient un peu freiné le développement, ou en tout cas la commercialisation du produit. Mais quand je suis allée lire des articles sur les dernières données en question, ça ressortait pas du tout. Et ce qui ressortait en fait comme problématique, c'était le fait qu'il faut que tu la prennes au moins, je crois, 3 mois pour que ça interrompe vraiment en fait la production du sperme. Et que c'était du coup un peu contraignant, quoi.
Mais il me semble que ça a commencé à être développé et il y a une phase de test au Canada, si je ne m'abuse, et potentiellement aux États-Unis. Ça commence, c'est un peu sur les rails, tu vois. Donc ça arrivera peut-être dans 2 à 5 ans en France, mais c'est sur les rails.
Ouais. Et je pense que l'autre problématique qu'ils évoquaient dans les articles que j'ai lus, c'est qu'ils n'ont pas forcément tant de financement que ça pour développer le produit, parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas tant que ça de demande, en fait, de la part des hommes.
Ouais, bah après...
Et donc, du coup, que ça demande beaucoup d'investissements financiers pour un retour assez faible.
Oui, ça reste de l'industrie pharmaceutique commerciale.
Exactement.
Et en plus, dans la culture, on n'en est pas là. Moi, il y a une grosse inquiétude dont je voulais faire part tout à fait honnêtement. Moi, par souci d'équité, je serais prêt, en fait, à prendre la pilule masculine, mais j'ai une énorme inquiétude sur l'impact hormonal, en fait. Des fois, même chez les hommes, alors, c'est pas pour faire genre « nous aussi, ok », mais il y a des cycles hormonaux chez les hommes, oui, dont on parle très peu, et j'ai très peur de ne plus me reconnaître avec un traitement régulier hormonal dans mon corps.
Bah, je pense que ce genre de question, en fait, c'est comme pour les meufs aujourd'hui, c'est
bien sûr.
Tu testeras la pilule, si tu la supportes mal, t'arrêteras, et si tu la supportes bien, tant mieux, quoi.
Oui, mais tu vois, c'est juste marrant de dire que, enfin, et moi j'assume que c'est vraiment une peur de désordre hormonal, c'est pas...
Mais je pense que c'est une peur légitime, tu vois, et en fait, tu vois, cette peur-là que tu as, j'ai l'impression qu'on l'a un peu décrédibilisée chez les femmes, en mode, vous êtes des chouchottes...
Vous êtes hystérique...
Oui, en mode, c'est pas si grave que ça, mais en fait, la métabolisation d'hormones de synthèse, ça crée quand même des micro-inflammations à différents organes. Alors après... mon discours, je veux pas non plus que ça crée de la peur chez les personnes qui utilisent la pilule, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on balance beaucoup la pilule chez les jeunes filles sans vraiment, en fait, leur expliquer tous les aboutissants, quoi.
En faire un choix, en fait.
Oui, j'ai l'impression que l'information, elle est pas vraiment donnée, ou en tout cas, parce que tu vois, en tant que médecin, gynécologue, t'as tout un tas de data et que tu vois que ça se passe plutôt bien, donc tu vas la donner, du coup, à tes patients sans trop de soucis, quoi.
Je tenais juste à préciser qu'il y a une thérapie hormonale qui est disponible pour les hommes en tant que moyen contraceptif. Il y a 2 médecins en France qui le prescrivent, donc ça en dit long déjà sur... sur tout ça, mais j'en avais contacté un à l'époque, donc si besoin, on peut refiler le contact. Et donc la thérapie hormonale masculine consiste à des injections, alors je sais plus si c'est de la testostérone ou d'une hormone, dans la fesse, une fois par semaine.
Oui, c'est ça.
Et dans les fesses?
La fesse. Comme l'humoriste.
Oui, c'est particulièrement contraignant comme méthode.
Il faut trouver Jean-Yves Lafesse et hop. Ce qui est méga relou, c'est que tu ne peux pas te faire la piqûre toi-même, tu dois faire venir une infirmière. Je sais.
Est-ce que c'est forcément
Album
un
a
problème.
Fait un petit clin d'œil, je voulais juste le dire à l'antenne parce que c'est important.
Mais attends, mais c'est une injection combien du coup?
Toutes les semaines.
Toutes les semaines pendant combien de temps?
Tout le temps que tu veux que ça marche. Et pareil, ça met, il me semble que ça met 3 mois
ouais, c'est
à
très
être
long.
Efficace.
Ouais.
Bon, je me mettrai en télétravail tous les lundis.
Non,
matin.
Mais tout ça pour dire que il y a eu des alternatives masculines à la contraception féminine, du coup, existent. Mais on voit bien que c'est pas au point. Enfin, genre là et. C'est chiant. Après, tu peux devenir pote avec ton infirmière. Je voulais juste le citer parce que c'est un moyen... Enfin, pour moi, le sujet de ce podcast, c'est aussi de se dire, mais il y a beaucoup plus de moyens de contraception auxquels on croit. Et il y a le site macontraception.fr qui est vachement bien.
Moninfirmière.com. Mon infirmière dans le cul.
Près de chez toi, chaude.
Oh, mais non.
Et le site macontraception.fr, il me semble que c'est ça. Allez voir, il y a tout qui est référencé avec à chaque fois les avantages, les inconvénients. C'est vachement bien fait. Et moi, j'ai été... à l'époque, c'était il y a 4-5 ans quand je cherchais, mais je savais pas qu'il y avait autant de choses. Et on n'est pas aussi coincé que ça entre la pilule et la capote, en fait. Il y a d'autres choses, donc allez explorer, s'il vous plaît.
La pilule et la capote, ça peut faire un conte. Et alors, je voulais juste explorer...
Mettre pilule sur un arbre perché.
Tenez ton sang bec, la capote.
Je voulais parler de la vasectomie.
Allez.
Oui. Allez, c'est le moment vasectomie.
Vous êtes tous concernés, en plus.
Parce que je l'ai considéré. La vasectomie.
La vasectomie.
Allez, va me chercher des ciseaux.
Mais alors...
Le fameux décapsuleur.
Je l'ai considéré, moi, avec...
J'ai des frissons négatifs.
C'est vrai qu'on a parlé de vasectomie après se resservir une bière avec le vieux tire-bouchon rouillé.
Puis moi, je me suis revue en train de mettre une capote avec ma bouche.
J'ai cru que t'allais dire... Et moi, je me suis revue en train de vasectomie un pote.
Oh, juste comme ça,
le
en
fameux
soirée.
Mythe de la castraterie, j'avais besoin de le placer. Hein.
La voix de tête.
Après, il fait le moustique. Oh, c'est même pas concerté.
C'était incroyable. Tu le garderas au montage.
Je le garderai au montage parce que ça n'a aucun sens, mais les gens doivent s'habituer.
On a fait un épisode sur le moustique que je vous conseille d'essayer.
Bon, l'épisode sur la fellation, on parlera de moustique. Hein.
Ouais, ça, il y a un épisode bien. Sur la fellation.
Oui.
Et j'ai pas été invité.
Non, mais il est pas prévu sur... pour cette saison.
Oui, non, il y a pas d'épisode sur la fellation.
Pour mais la
pas pour
cette saison. Saison 3 dans 2 ans.
Bah si. Oui. Mais...
Non, mais pas.
Qu'est-ce qu'une bonne pipe?
Mais pas cette saison.
Théo.
Qu'est-ce que non, c'est maintenant
qu'on fait comme une pipe.
C'est maintenant. On aurait dit un cheval qui fait du trot.
Moi, ça m'a rappelé mon chat qui vomit des boules de poils.
Ah oui, après avoir sucé.
Non.
Ah, ça me rappelle mon chat quand il me suce, il vomit.
Non, ça, c'est un manga japonais. Je recommande pas.
La vasectomie.
La vasectomie. Alors, je voudrais juste... Après, Théo, je sais que toi, tu as des choses à partager sur ça. Moi, je l'ai considéré...
ton expérience.
Dans...
C'est pas drôle.
Vous êtes intenable. J'étais avec une fille et elle voulait plus prendre la pilule pour plein de raisons d'effets secondaires. Et j'avais considéré la vasectomie, mais j'étais bien ignare. Et que je pensais que c'était genre, tu te snips, hop, tu te coupes un petit bout des couilles. Enfin, genre le canal, quoi, tu le déroutes. Et après, quand t'as envie que ça revienne, tu te le remets. Et Théo m'a appris que c'était en fait que quand tu peux pas revenir à 100% de chance, qu'il faut que tu acceptes.
C'est ça. Une vasectomie réversée, je sais pas comment on dit, c'est de mémoire 60% de taux de réussite. Entre 60 et 70.
Donc t'as 40% d'être stérile. Chance.
Exactement. Et c'est pour ça, très bonne idée en théorie, et en pratique, pas du tout. Parce que du coup, en fait, si tu es persuadé que dans ta vie que tu veux plus avoir d'enfants, c'est super cool de se faire faire une vasectomie, et c'est pour ça que c'est une opération qui est majoritairement faite par des gens qui sont déjà des papas, quoi, enfin.
Mais de la même façon pour la ligaturation des trompes pour les femmes,
oui,
en fait.
Oui, mais l'opération est beaucoup plus bénigne pour les hommes. Il y a aussi des techniques qui commencent à être développées, qui sont plus facilement réversibles, mais qui sont pas encore très démocratisées, notamment une technique où t'injectes une sorte de gel qui va durcir dans le canal. Donc en fait, tu coupes pas ou tu n'altères pas le canal directement.
Mais attends, mais comment ça, qu'est-ce que quoi?
Le corps de Florian s'est rigidifié instantanément.
Mais non, mais déjà, qu'est-ce qui se passe dans mon canal?
Mais tu mets un petit peu de gel dans ton canal et ça bloque en fait.
Mais non, mais mon le sperme, il doit être évacué.
Et tu as toujours du sperme. C'est le canal qui permet d'insérer les spermatozoïdes dans le sperme. Le sperme, c'est un shot de prod pour que les spermatozoïdes puissent vivre plus longtemps.
Oui, oui, mais d'accord, mais t'avais pas précisé. Moi, je croyais qu'on me l'était dans l'urètre.
Non, non,
dans l'urètre. Déjà ne plus pisser, quoi.
Dans le canal, et c'est...
Non, très vite, c'est très efficace.
Ça revient à l'autre truc que je voulais dire, c'est que la vasectomie n'est pas dévirilisant, puisque tu continues à éjaculer normalement. Et ça, tout le monde ne le sait pas, et c'est important de le savoir.
Mais justement, c'était la question que je voulais poser sur la virilité, c'est que, tu vois, quand on parlait des modes de contraception masculine qui sont en train d'être élaborés actuellement... Bah, un des éléments, c'est qu'en fait, tu produis plus de sperme. Donc, en fait, quand t'éjacules, il n'y a plus rien qui sort.
En fait, tout ce qu'on a évoqué, tout ce qui est à base d'hormones, le but, c'est de stopper la production de spermatozoïdes.
Ah, du coup, le sperme est toujours présent.
Voilà.
Enfin, du coup, la substance
sperme,
protéinée.
C'est ça.
Le
sperme, c'est le shot de prod.
On peut toujours faire des shakers.
Non, mais voilà, c'est pas la fin des faciales.
Non, mais en fait, je me suis posé la question, tu vois, de tu vois, en tant qu'homme, t'as l'habitude d'avoir un jet blanc qui sort, tu vois, assez régulièrement.
C'est pas censé être marron.
Ah, vert. C'est quoi la couleur qui te met le plus mal à l'aise de ton sperme?
Violet.
Ah bon?
Moi, j'avoue.
Quand t'as pris trop de champignons.
Le rouge, ça te met mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Qui m'a mis des aiguillons dans les couilles?
Moi, j'avais envie de te dire quelque chose. Parce que j'ai beaucoup critiqué, je pense, la prescription de la pilule chez les jeunes filles adolescentes. Mais en fait, je suis allée voir quand même les datas liées à l'avortement en France. Et j'ai vu qu'en fait, t'avais vraiment une grosse baisse d'avortement en fait chez les adolescentes. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Et que je pense qu'en fait, tu vois, genre la prescription de la pilule chez les jeunes filles, enfin, contribue voilà, à diminuer le risque de grossesse indésirée. Donc, c'est pas... Tout n'est pas négatif.
Non,
voilà.
Non, on n'essaie pas de taper, on essaie juste d'ouvrir un peu
mais
les perspectives.
C'était juste pour nuancer un petit peu peut-être mon discours et pas de le rendre non plus tout noir.
C'est vrai, bon.
Moi, en fait, je suis vraiment curieuse d'avoir les commentaires des applaudisseurs. Enfin, je le dis sincèrement parce que, enfin, moi, je sais que j'ai mes convictions sur certains sujets. Je vais suivre et lire des choses qui vont souvent dans le sens de ma pensée,
bien sûr.
Qui sont pas forcément, qui sont pas forcément challengeantes. Donc, du coup, je serais vraiment curieuse d'avoir d'autres témoignages, d'autres visions en fait de la question. Donc, si vous vous sentez à l'aise, vraiment, n'hésitez pas à partager voilà votre expérience, votre opinion sur leur compte Instagram.
Je suis entièrement d'accord. Alba, du coup, est officiellement community manager à partir d'aujourd'hui. Mais non, vraiment, par contre, on lit tous les commentaires, plus que lire tous les commentaires ou les messages, on répond, on a vraiment des échanges suivis avec tout le monde. Et c'est un sujet que volontairement on a choisi parce que c'est un sujet dont on parle peu entre hommes. Et que du coup on est un peu ignare Théo et moi sur le sujet, même si on s'est renseigné et que on nous en discutait, on n'a pas du tout la science infuse et on serait très très content d'avoir vos témoignages pour un peu étoffer ce qu'on a dit pendant cette heure qui n'a pas de volonté à être universelle ou une science exacte.
Est-ce que je peux revenir faire des podcasts avec vous, mais même juste pour vous regarder?
Mais oui,
en tant que voyeuse.
Volontiers, Alba, t'es toujours la bienvenue. Et Alba est géniale, voilà, 50 centimes, et donc tu es toujours la bienvenue. Ben en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de non contenu de parler de la contraception.
Comment ça, de non contenu?
Non, mais je sais pas.
Est-ce que tu peux expliquer ta blague là devant tout le monde?
Me shame. La contraception, ça bloque, tu vois. Donc je dis, c'est un plaisir non contenu. Bon, je sais pas, j'essaie de.
Ah oui, d'accord. Ah, mais pas mal. Du coup, maintenant tu m'expliques, j'aime beaucoup.
Ah bah voilà, ouais, je suis poète. Alba, merci beaucoup de
mais
ta
de
présence
rien.
Et de ton rire cristallin.
Cristallin, je suis pas sûre, mais en tout cas, je me suis bien amusée.
Cristallin dans les graves.
Voilà, on est bien d'accord.
Rocailleux, quoi.
Dégueu.
Merci de t'être dégueulé de rire.
Un exemple.
Théo, un plaisir.
Mais Flo, toujours, allez.
Allez. Comment il se débarrasse de moi? Allez, un plaisir, allez, tech tech.
Non, mais on s'embrasse.
On vous applaudit
avec le cœur. Et on vous fait des gros bisous. Des gros bisous.
Bisous.
Merci d'avoir écouté cet épisode. On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram, ça compte beaucoup pour nous.
De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.